Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour avec Jordan Vial qui nous parlait de ses EMI, ses expériences proches de la mort, de mort imminente exactement. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick.
Tu as souhaité aujourd'hui revenir sur un aspect qui te semble important. Nous étions quittés au moment où tu évoquais la page blanche et la page noire.
Voilà. Et pour faire suite au dernier épisode et à la deuxième EMI, je vais passer rapidement d'abord sur les deux autres anesthésies. Là, les médecins étaient bien en alerte et ils contrôlaient l'anesthésie pour ne pas m'envoyer trop loin. Donc, ils gardaient sous contrôle pour que je reste à la frontière. Avec la troisième anesthésie, j'ai juste vécu une décorporation. Et là, j'ai fait une petite balade dans l'hôpital et j'ai joué les détectives. Je suis allée chercher des éléments dont je pourrais parler au retour pour donner la preuve que ce que je voyais pendant le soi-disant coma montrait bien que la conscience était capable.
Que la conscience continue.
Non seulement elle continue, mais elle est capable de, comment dire, faire des choses très concrètes, du style aller chercher des éléments, les ramener, etc. La quatrième anesthésie, un an après, c'était pour me retirer le clou qu'on m'avait mis du col du fémur au genou. Et me voilà encore projetée hors du corps avec un petit coma de quelques heures. Et dans la salle d'opération, je suis restée là, à écouter, à voir ce qui se passait. Et là, je suis rentrée dans la pensée des médecins et des infirmières, et les pauvres, j'ai vu qu'ils paniquaient complètement, à leur manière, en essayant de ne pas montrer leur panique, parce qu'ils avaient suivi des formations et qui voulaient être fidèles à leur formation. Donc j'entendais ça. Oui, en formation, on nous a... Donc, j'entendais comment... Ils essayaient
c'est extraordinaire quand même
de se contrôler,
de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la psyché des gens.
La conscience, dès qu'elle n'est plus soumise à certaines limites, tout est ouvert. Les radios sont ouvertes.
C'est ça.
Les radios sont ouvertes. Et donc, j'ai vu qu'ils paniquaient. J'ai perçu particulièrement l'angoisse de l'anesthésiste qui, en voyant qu'il perdait le contrôle au moment où les appareils se sont mis à biper de tous les côtés, s'est posé à un moment donné la question des mises à jour des assurances de l'hôpital et de ses assurances propres.
Ça y est, qu'est-ce que je vais risquer? C'est moi qui vais encore payer.
Et le pauvre, il balisait sérieusement. Dans la soirée, il est venu me voir dans ma chambre. Et moi, à sa grande surprise, j'étais en pleine forme, assise dans le lit, en train de plaisanter. Il me dit, mais c'est incroyable, vous sortez d'un coma, vous êtes en pleine forme. Je dis, oui, parce que pour vous, c'est un coma, mais pour moi, c'était une balade. Et tiens, d'ailleurs, êtes-vous à jour de vos assurances? Et le gars, il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que pendant que vous étiez en train de me perdre, vous vous êtes demandé si vos assurances étaient à jour. Et le gars, il s'assoit sur le lit, il me dit, oh, mais c'est vrai, j'ai pensé à ça, c'est vrai. Oh, mais je vais m'intéresser à ces phénomènes... De NDE, il me dit. Ah, ça m'intéresse. Voilà. J'ai ouvert...
Tu as ouvert une piste.
Une piste. Voilà. Mais au fond, ces deux petits états comateux de quelques heures, pour moi, je ne les tiens pas pour des EMI. Parce que je ne suis pas allée bien loin. Je me suis juste amusée dans des décorporations que je savais faire depuis que j'étais petite. Et je suis vraiment restée dans les portes d'en bas, dans les sphères d'en bas. Je n'ai pas franchi la porte de la mort. Donc je ne considère pas que ce sont des EMI. Les deux expériences de mort imminente avec le franchissement du trou noir, là, oui, ça m'a transformée à jamais. Dans les semaines et les mois qui ont suivi ces deux EMI, j'avais la sensation d'être à la fois une page blanche et une page noire. La blanche... Elle est fondée sur la désintégration du moi de surface, dont j'ai déjà un peu parlé. L'ancien moi de Marie-Hélène, avec des zones de bibliothèque complètement effondrées, des amnésies partielles, mais surtout cette sensation, cette phrase qui me taraudait, « Quand il ne reste rien, que reste-t-il » Il n'était pas question de laisser un moi de surface se reconstruire en le remplissant à nouveau avec les mêmes absurdités, de le reformater alors que j'avais bien vécu l'effondrement de ses formatages, de ses croyances, de ses pseudo-spiritualités. Tout ça, ça ne passe pas les portes de l'éternité. Tout ce qui n'est pas d'une conscience de vérité s'effondre aux portes de la mort. J'en ai fait l'expérience. Et seule la conscience de la conscience qui se mire en elle-même est éternelle. Le reste est éphémère, c'est juste un espace d'expérimentation. Mais maintenant, je dois quand même parler de la page noire. Car lors de la première EMI, je n'en ai pas encore parlé, quand j'étais face à ce mur dont j'ai parlé dans le premier épisode, j'ai touché, c'est un mot, dans le goulot de passage à cette œuvre au noir. En apparence, cette œuvre au noir, vraiment en apparence, c'est l'opposé de la supralumière. Et pourtant, maintenant, je peux dire que c'était sa parfaite complémentaire. Il y a dans ce vortex de passage, on pourrait dire, pour mettre des mots, comme sur les bords du vortex, au fond des abîmes, comme un mur noir, quelque chose de si ténébreux. Et de là monte comme un cri, mais c'est des mots tout ça, comme un cri qui vient des entrailles de la terre et dont on a tous un écho de ce cri dans toutes nos cellules. Cette peur primaire, cette révolte, ce désespoir, ces manques, ces aveuglements, cet abandon, ces misérables souffrances, cette solitude sèche, et tout est là comme une abjecte concrétion noire, gluante, glaciale. Et ça demande à être franchi comme une ultime épreuve. On est là, comme fouillé par un œil implacable, un peu comme le juge suprême des Égyptiens dans le livre des morts égyptiens, ou comme dans le bardo Todol, le livre des morts tibétain. Et on sent qu'on est fouillé dans les moindres recoins. Ça cherche ce qui adhère encore à cette colle fabriquée par l'illusion de la séparation. Ça ne fouille pas dans quelque chose de moral. Il n'est pas question de bien ou de mal, d'action ou de pseudo-péché. Ça ne s'intéresse pas à ça. Ça, c'est des contes pour enfants. Non, ça vérifie où on en est avec la faille de la séparation. Car ce qui se croit séparé de la lumière crée une mort séparée de la lumière vraie. Et là, ça tremble vraiment. Vois-tu que tu es lumière ou crois-tu encore qu'elle est ailleurs? Adhères-tu encore à la séparation? Et voyez, ça, il faut le traverser. Et il faut surtout être désigné capable de le traverser. Parce qu'il y a cet œil qui fouille. C'est comme si un gardien du seuil disait « Le moindre attachement à ton moindre lambeau de personnage te renverra à l'illusion de la douleur. Tu te nourriras encore de cette illusion de la séparation de ce côté ou de l'autre. Car oui, il y a des morts où l'on reste loin de la source, dans une idée de la lumière, mais pas dans la lumière. Et oui, seule la nudité totale, la nature de feu, retourne à la source de feu. Mais ne vous inquiétez pas, l'infinie compassion est là et enveloppe tous les défunts sans exception. Pour moi, là, tout est devenu évident. Ce cri n'était plus un cri de désespoir, mais le cri d'une aspiration sans limite. Et j'écris aspiration avec un A majuscule, vraiment l'aspiration, une force d'aspiration avec un pouvoir immédiat de téléporter des profondeurs à la source de lumière, la source de vérité et la source d'amour. C'est là que j'ai tout abandonné, tout a explosé. Et là, je suis devenue une torche de feu ardent, ce feu incandescent qui brûle mais ne consume jamais. Je ne fais pas l'apologie de la souffrance, même si quelque chose en nous a sacrifié son état de transcendance pour descendre dans les profondeurs, pour vivre et naître de ce cri de douleur dans l'expérience de la terre, c'est pour aspirer à cette source infinie. Aspirer, faire descendre quelque chose d'elle ici, et plus ça descend, plus ça monte. Aspirer n'est pas comme une promesse. aspirer cette double spirale qui devient la force qui propulse des profondeurs à la source et inversement. Cette force qui est là, éternellement là, pas dans un ailleurs, pas dans un au-delà, mais dans l'écho de notre souffle, dans l'écho de notre cœur. Cette force, cette présence source qui est là pour bâtir le corps du chant. Et en passant le portail de la mort, j'ai bu le nectar de la vie.
Très beau. Merci beaucoup.
Merci Marie-Hélène. Patrick.